Radio Grand Ciel présente Be Jazz, soyez jazz, une émission réalisée par Patrick Durand et Gilles Secaze, avec à la technique Claude Casal et au micro Christiane Blain. Vous connaissez Patrick Durand, un médecin qui explique le cheminement de compréhension du jazz par la neurobiologie. Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Il est accompagné pour ses émissions par Gilles Secaze, un journaliste qui pratique la guitare dans des formations de jazz. Gilles Secaze, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors aujourd'hui, c'est le grand chantage. Nous avons donc choisi d'évoquer le film d'Alexandre McKendrick. Et il s'agit, je dirais, d'un film sorti en juin 1957 aux États-Unis sous le titre original « Sweet Smell of Success », un doux parfum de succès. L'intérêt de ce film très noir repose essentiellement sur la peinture d'un milieu new-yorkais assez sordide, servi par une partition musicale jazz signée Elmer Bernstein et Chico Hamilton. Suffisamment puissante et évocatrice pour en traduire la brutalité, la causticité et la sensualité.
Nous vous rappelons, chers auditeurs, que l'émission est centrée sur du jazz et nous voulions vous faire participer à cette connaissance du jazz au travers du milieu du cinéma et des films qui ont eu un succès tant pour la pellicule que pour les orchestrations. Nous allons écouter le premier morceau de ce film, Le Grand Chantage, qui s'intitule The Street, la rue, et où nous allons vous raconter l'histoire petit à petit. Premier épisode, la rue. Il s'agit d'une partition très riche, très dense et assez illustrative de cette séquence de ce film noir dont nous allons dire deux mots.
Alors, dans ce film Le Grand Chantage, c'est l'histoire d'un minable attaché de presse, Sidney Falco, qui est interprété par Tony Curtis, à Manhattan. Il est incapable de sortir de l'influence de J.J. Hunsaker, qui est joué par Burt Lancaster, un très puissant chroniqueur mondain et directeur du journal Le New York Globe. Il va échouer dans sa mission de briser la relation amoureuse entre la jeune sœur de Hunsaker, Susie, qui est interprétée par Susan Harrison, et le guitariste de jazz Steve Dallas, qui est interprété par Martin Milner. Nous allons écouter le morceau qui s'intitule « Sidney et Susie » et qui évoque les deux protagonistes de ce film.
Falco perd de l'argent et des clients. Il a une possibilité de se refaire, ceci par l'intimidant Hunsaker. Il prévoit de propager une fausse rumeur dans un journal concurrent, rumeur selon laquelle Dallas est un communiste doublé d'un drogué. Il va alors persuader Hunsaker d'intervenir pour sauver la réputation de Dallas, certain, persuadé, que l'entêté, petit ami, rejettera cette faveur et se détournera de Suzy.
Troisième illustration, Hunsaker's Price.
D'une certaine manière, le plan fonctionne. Ainsi, Dallas ne peut résister à s'en prendre aux méthodes de Hunsaker. Forcé de choisir entre son frère et lui, la timide Suzanne rompt avec son amant afin de le protéger, lui, de son frère.
Ce passage est censé illustrer les problèmes de Suzy.
Toutefois, Hunsaker, furieux des insultes que lui a proférées Dallas lors d'une brève confrontation, décide finalement de ruiner la réputation du guitariste, contre l'avis de Falco, en le faisant arrêter et brutaliser par Harry Kello, qui est joué par Emil Meyer, un lieutenant de police corrompu pour possession de marijuana. Le plan est tellement tordu que même Falco refuse d'y participer, à moins que Hunsaker ne promette de délaisser pour quelque temps ses redoutables chroniques et de lui en laisser la gestion. Dans un nightclub, Falco glisse des cigarettes de marijuana dans la poche d'un manteau appartenant à Dallas. Aussitôt sorti de l'établissement, il est accosté par Kello.
Alors Falco se rend chez Hunsaker, où il trouve Suzy esselée et même sur le point de tenter de se suicider. Alors, il la saisit, tandis que son frère entre. Un séqueur, fort du silence de Suzy, accuse Falco de vouloir l'agresser et commence à le frapper. Falco, bien plus faible, plaide qu'il est venu à la demande d'un séqueur, lequel assure qu'il ne l'a jamais appelé. Alors que Suzy exhorte un séqueur de cesser de le frapper, Falco se rend compte que c'est elle qui a manigancé cette confrontation. Alors, la tension entre les deux hommes est telle que Falco révèle à Suzy que c'est son frère qui lui a ordonné de détruire la réputation de Dallas et leur relation. Alors, un séqueur demande à Kello d'arrêter Falco, qui tente de fuir, mais il est rattrapé dans Times Square par le flic brutal. De retour dans l'appartement de Hunsucker, Suzy, qui a préparé ses valises, avoue à son frère qu'elle a tenté de se suicider, préférant mourir plutôt que de vivre avec lui. Elle sort de l'appartement en lui assurant qu'elle va retrouver Dallas et que son frère lui inspire de la pitié plutôt que de la haine.
Voilà, nous n'avons pas fini de vous faire écouter quelques illustrations, mais je voulais, entre-temps, vous exprimer la difficulté qu'il y a de relier à la musique à des images que l'on n'a pas dans les yeux. Autant la musique peut être illustrative d'un film que l'on voit, autant la musique qui a été créée pour des images et dont on ne voit pas les images est un petit peu difficile à comprendre. Alors, je ferai une petite critique en disant que la plupart du temps, des grands compositeurs, Bernstein quand même est connu, utilisent des moyens assez convenus pour illustrer donc la violence. On va mettre un grand nombre d'instruments où l'on tape dessus, donc on va mettre la batterie, on va mettre des instruments plutôt du type piano, et si l'on veut exprimer des sentiments un petit peu doux, des sentiments d'amour, on va mettre des cordes dont on utilise un archet, donc des instruments qui sont plutôt frottés que tapés. Donc c'est là où je veux dire que la musique est convenue. Néanmoins, il y a, et c'est mon propos, il y a une différence entre une musique qu'on écoute comme ceci, là, chers auditeurs, vous écoutez une musique, vous ne voyez pas les images, et ça peut paraître un petit peu, pas surréaliste, mais un petit peu
décalé,
en tout cas demandant de faire des efforts, d'essayer de comprendre à quoi se rapporte cette musique qui a été écrite, il faut le dire, donc pour le cinéma. Voilà, donc simplement, je recalais un petit peu ce propos Pour replacer les choses, nous avons voulu donc vous faire écouter des morceaux de jazz et en quoi le jazz est partie prenante du cinéma. Mais ce jazz-là, il est quand même un petit peu convenu et il doit s'écouter en fonction de la pellicule. N'est-ce pas, Gilles ?
Oui, tout à fait. Mais moi, j'aurais tendance à dire, Patrick, que la musique, dans ce cas-là, reflète tout de même un tempo, une angoisse,
oui,
il y a une frustration.
On a peur.
Genre de son musical qui pourrait venir de l'une des nombreuses boîtes de nuit que fréquentent les personnages du film. N'oublions pas que c'est un film dont l'intrigue est resserrée sur 36 heures, dont deux nuits. Et New York est un personnage du film à part entière pour cette histoire de pouvoir, d'ambition, de mensonge, de bassesse, de calomnie. Le réalisateur a, dès le générique, posé ses caméras dans le Theater District à Times Square, égratignant au passage l'image lisse et aseptisée de Broadway. Alors le grand chantage s'appuie sur une excitante partition de jazzy du compositeur Bernstein, d'où fusent des accents sombres qui soulignent le côté noir du film. Et on intensifie la tension. Inutile d'avoir les images devant les yeux. On sent cette tension, on sent le côté sombre et sordide de l'histoire. Ce sont les sons d'une petite section de New York entre Columbus Circle et Times Square, raconte Elmer Bernstein. Dans ce minuscule empire, des vies sont créées ou détruites par le public, les critiques et les éditorialistes. À l'origine, le violoncelliste Fritz Kast et le batteur Chico Hamilton, qui apparaissent dans le film, avaient composé une première partition, finalement rejetée au profit de celle d'Elmer Bernstein, lequel réincorpora certains des thèmes que les deux autres musiciens avaient composés. Nous allons d'ailleurs écouter le quintet de Chico Hamilton, qui s'intitule le Sydney Theme, le thème de Sydney. Ce morceau intervient dans une scène extrêmement tendue où Falco va essayer de tendre le piège à Dallas. Et on remarque que dans le grand chantage, le jazz s'inscrit à la fois comme bande-son et comme signifiant culturel. La formation de Chico Hamilton, qui comprenait un violoncelle, une flûte et une guitare comme élément sonore clé, a été souvent désignée comme jazz de chambre. Chico Hamilton est un batteur. L'acteur Martin Milner, qui joue Dallas, est doublé par le guitariste John Pisano, membre en réalité du quintet à cette époque.
La collaboration d'Elmer Bernstein avec Chico Hamilton est le parfait exemple de la façon dont le jazz peut saisir des personnages et un récit. Les manières à la fois mielleuses et acides de Sidney Falco et de Hans Hucker, reflets du monde dans lequel ils vivent, sont vraiment très bien traduites. Vous saisissez leur flagornerie, vous entendez leur arrogance et vous percevez le charme animé et parfois indisposant de la vie nocturne de la ville dans laquelle ils évoluent. La partition du grand chantage est également remarquable du fait de son éclectisme. À un moment, on se sent comme séduit. L'instant d'après, on a l'impression d'avoir reçu un coup. le Chico Hamilton Quintet, est interprète. Il interprète une grande partie de la bande originale du film et il accentue ainsi la pulsation du Broadway la nuit que dépeint l'histoire.
Voilà, une parfaite illustration du jazz tel que je l'aime, c'est-à-dire un jazz qui est pulsionnel, où la musique a tout à dire et on peut se laisser bercer par cette musique. Il s'agissait là d'illustrer les nightclubs de New York, et effectivement, on a une parfaite illustration, du moins de l'époque, de ce qu'était la musique et le jazz à cette époque. Bien sûr, pour illustrer un nightclub, rien de tel que de prendre des musiciens de jazz et les faire jouer comme dans la réalité. Tout cela n'enlève rien à mon propos précédent.
Une réalité qu'on peut interpréter par la manière dont effectivement les musiciens jouent, puisqu'il s'agit d'une jam session, c'est le titre du morceau, et... lors d'une jam session, n'est-ce pas Patrick, on a tendance à être relativement libéré. Et ce qu'on aime aussi, c'est une certaine émulation par le rythme, par le tempo. C'est comme ça qu'on aime le jazz.
Alors effectivement, de nombreux nightclubs et restaurants sont présents dans le film, comme le Club 21 qui est un des hauts lieux du business artistique qui va servir aussi de décor pour d'autres films. Et un endroit où Burt Lancaster reçoit à sa table le tout New York.
Le personnage de Burt Lancaster. Je ne sais pas si Burt Lancaster avait l'habitude de recevoir le tout New York au Club 21. C'est intéressant parce que le réalisateur du film, Alexander McKendrick, est un Britannique qui a eu beaucoup de succès en Grande-Bretagne et qui a débarqué aux États-Unis pour réaliser ce film. Pour la petite histoire, entre Burt Lancaster et Alexander McKendrick, Burt Lancaster était producteur aussi du film. Entre deux, le courant n'est pas bien passé. Et on sent, il a voulu d'ailleurs à un moment demander à Alexander McKendrick d'aller faire autre chose et de le remplacer par un autre réalisateur. On sent une difficulté pour Alexander McKendrick de terminer son histoire et de dépeindre comme peut-être il aurait bien aimé le faire, ce New York, ce New York du business, du show business en fait. En fait, le grand chantage capte le malaise de la culture américaine entre la fin des années 1950 et le début des années 60. Il est caustique, amer et très showbiz. Mais il a été un échec commercial à sa sortie. Ce qui n'enlève rien de ses réelles qualités, et associé à son célèbre et percutant dialogue, en ont fait un classique du cinéma.
Nous allons écouter toujours le Chico Hamilton Quintet qui joue Goodbye Baby.
Ce morceau ne conclut pas le film. Nous avons écouté tout à l'heure un morceau qui s'appelait Out of Darkness, qui était la fin du film. Rappelons-le, qui se termine par le départ de Suzy. Elle quitte son frère en lui disant qu'elle préfère partir plutôt que de le haïr. Et la musique de Chico Hamilton que nous venons d'entendre, qui s'appelle Goodbye Baby, ponctue également cette fin et donne à penser au spectateur que finalement ce pauvre Hunsaker, malgré sa morgue et malgré ses bassesses, s'en tire relativement bien.
Eh bien, chers amis auditeurs, j'aimerais que vous nous retrouviez dans un mois pour notre prochain film dans le cadre de Jazz dans le cinéma. Vous aurez la chance d'entendre la musique des Tricheurs. Ce film de Marcel Carné qui est sorti en 1958, en fait c'est une comédie de mœurs autour d'une bande de jeunes parisiens plutôt aisés de la fin des années 50 qui vivent absolument, je dirais, gavés de musique de jazz entre rive gauche de Saint-Germain-des-Prés et rive droite du 16e arrondissement de Paris. Ils s'enivrent de vitesse, ils expriment leur volonté d'afficher leur refus des conventions sociales et des valeurs bourgeoises. Voilà donc, chers amis auditeurs, là, le mois prochain, Les Tricheurs dans notre série Jazz dans le cinéma.